Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de Jonathan Gilbert, Clément Payen et Florian Bon. Les deux premiers sont les créateurs de Détroit, une agence représentant un pool d'artistes IA générative. Florian est une artiste exploitant l'intelligence artificielle pour créer des œuvres numériques uniques et empreintes d'émotions tout à fait bluffantes. Ensemble, nous avons discuté de l'impact de l'IA sur l'art et la création en général. Vous allez découvrir leur point de vue sur l'apprentissage et l'utilisation des différentes IA, sur l'avenir de certains métiers créatifs, notamment dans le domaine de la publicité, sur la notion de plagiat dans l'art, ou encore sur la législation autour de ces nouveaux outils. Avant de commencer, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me rejoindre sur fromscratch.podcast sur Instagram, vous y trouverez pas mal de contenus complémentaires. Allez, c'est parti pour tout connaître de Clément, Jonathan et Florian, From Scratch. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ?
Salut.
Ça va bien ? Oui ?
Super bien.
Bon, c'est un exercice particulier aujourd'hui pour cet épisode, car je n'ai pas un invité ni deux, mais bien trois invités. Il y a une sorte de déjà vu dans cette introduction. Comment allez-vous, Florian, Jonathan et Clément ?
Très bien.
Très bien aussi.
Super.
Bon, ben merci en tout cas pour l'accueil. On est là à Paris dans votre studio de création, on peut dire ça comme ça. Moi, je suis en tout cas ravi de vous réunir pour cet épisode dédié à un sujet fascinant, celui de l'intelligence artificielle générative. Super timing. Il y a la release de ChatGPT qui a eu lieu il y a quasiment un an, donc le 30 novembre 2022. C'était mon anniversaire. Voilà, exactement. On peut pas oublier. Et il y a aussi eu Midjourney. Donc, c'était en juillet pour la version bêta, il me semble, en 2022. Et en une année, il s'est passé énormément de choses. On va en parler tous ensemble. Donc, voilà, c'est une véritable révolution technologique, industrielle. Et on va en parler. Voilà, il y a eu des vocations qui sont nées. Il y a eu des nouveaux métiers, des nouveaux process, de nouvelles organisations et beaucoup de nouvelles questions. Et on va faire le focus aujourd'hui sur l'IA générative liée à la création artistique et au métier de la création, notamment ceux de la publicité. Avant tout, les amis, on va faire un petit tour de table pour faire connaissance, parce que ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est Détroit, une agence de talent que vous avez créée, Jonathan et Clément. Mais ça, on va en parler juste après. On va parler surtout de ce qui s'est passé avant et de ce qui vous a amené à ça. Ok, commencer avec Clément, si tu veux bien.
Salut.
Salut Clément, donc il vient du sud de la France.
C'est ça, d'un petit village qui s'appelle Aubé, qui est situé entre Nîmes et Montpellier. Et non, et c'est vrai que je me présente en tant que Nîmois, parce que bah, voilà, c'est la ville la plus proche de mon village, et c'est là où j'allais traîner quand j'étais en âge d'aller traîner avec mes potes en ville.
Et donc toi, tu commences à mettre les pieds, on va dire, dans la création, l'art, via un petit peu le graffiti. C'est un peu ça. Et aussi beaucoup de dessins.
Ouais, c'est ça. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Et c'est vrai que j'aimais les marques, déjà. Ma mère a retrouvé des planches de logo Nike que je faisais, je pense, vers 7-8 ans. Et après, quand j'étais au collège, je me souviens, en 6e, j'avais créé ma marque de surf et je passais du temps à dessiner le logo et à faire les visuels des boards. Et après, ça m'a amené vers le skate. Je fais pas mal de skate et en traînant dans les skateparks, ça m'a fait connaître le graffiti. Mm-hmm. Et voilà, du coup, j'ai vite switché avec une bande de potes. On a fait beaucoup de graffiti, donc de mes, je sais pas, 13 ans à la fin du lycée, ou après le lycée, je me suis du coup inscrit dans une école de design graphique et j'avais plus le temps de faire du graffiti finalement, et aussi un peu moins l'envie, parce que du coup ça m'a fait découvrir d'autres choses, du graphisme, donc toujours du travail des lettres, un peu comme ce qu'on apprend à faire dans le graffiti, mais à un autre niveau, donc voilà.
Et après, tu décides finalement de monter sur Paris.
Ouais.
Et là, tu rentres, on va dire, dans les agences de pub. Agences en plus.
Ouais, des stages en agence de pub. Première grosse agence. Non, la première grosse agence, c'était Devarieux Villaret, qui n'existe plus. Puis Léo Burnett en stage. Et puis après, j'ai fait un peu de free pour divers grosses agences. Donc, BBDO beaucoup, Guilvy beaucoup, entre autres. Et après ça, j'ai été embauché par BBDO où je me suis mis en team. Et voilà. Et puis après, j'ai fini par Ogilvy aussi.
Et tu as travaillé sur de beaux comptes comme Ubisoft, Mercedes, Perrier, Foot Locker.
Ouais, des beaux comptes chez BBDO, qui est donc qui était pas une très grosse agence en termes de nombre de créatifs. Hein. Il y a des agences où ils sont 500. Nous, on était peut-être une vingtaine de créatifs, mais on faisait partie d'un énorme réseau et on avait des très beaux comptes, donc voilà, Pepsi, Mercedes, Ubisoft, et voilà, donc on avait la possibilité assez facilement d'accéder à tous ces briefs. C'était aussi la politique interne de laisser sa chance entre guillemets à tout le monde de pouvoir toper tous les briefs, ce qui est pas forcément le cas dans les agences où il faut être un peu en bonne relation avec les DC ou des choses comme ça pour pouvoir y accéder. Là, c'était pas le cas, donc ça a permis effectivement de laisser sa chance à tout le monde et en l'occurrence moi j'ai pu effectivement faire des super campagnes pour Ubisoft
international, enfin global.
Ouais.
Donc ça plutôt cool, belle expérience.
Super cool, ouais.
Il y a eu aussi l'expérience du clip en 2011 ou 2012.
Ouais, c'est ça. Donc parallèlement à mon travail d'agence avec un ami à moi, Jérôme, on a monté un petit duo. On a eu l'opportunité par connaissance de faire un clip pour DSL, un petit groupe deadbanger, et on faisait ça en marge de notre activité en agence, qui fait que voilà, on s'est un peu fatigué à pitcher le soir, le week-end, sans forcément avoir des fois des réponses des groupes pour lesquels on pitchait, etc. Donc voilà, c'est un peu
frustrant.
Un peu frustrant.
Ouais. Et donc il y a dû avoir des choix, et forcément peut-être que c'est ça qui est passé.
Le choix, c'était aussi gagner de l'argent pour vivre. Donc voilà, donc l'agence en premier.
Mais agence en premier, mais il y a quand même aujourd'hui, donc en dehors de Détroit dont on va parler, il y a quand même un autre projet aussi que tu mènes et qui, j'imagine, est un projet de cœur. C'est aussi celui de Atelier de Nîmes.
Oui, Atelier de
Incroyable,
Nîmes.
Incroyable ça.
Je suis cofondateur avec deux amis d'une marque de jeans qui s'appelle Atelier de Nîmes. Et donc, il faut savoir que le de Nîmes, la toile qui sert à faire les jeans, elle porte ce nom-là parce que, en fait, à la base, le nom total, enfin le nom complet, c'était le Serger de Nîmes. Et en traversant le monde, en s'exportant, il s'est raccourci, il s'est anglicisé, c'est devenu le de Nîmes. Donc voilà, donc c'est Nîmes, la ville d'origine de cette toile. Et nous, depuis 2014, on a lancé une marque. Pas facile au début d'intégrer cette industrie. Et en tout cas, depuis 3 ans, on est arrivé à monter notre propre atelier où on tisse à nouveau notre toile, la toile en suivant des procédés authentiques et originels. Voilà, ce qui fait qu'on a une toile de super bonne qualité, éco-responsable aussi, puisqu'en fait on utilise des procédés qui existaient avant l'industrialisation, mais le productivisme à tout prix des années 70.
Là, on est dans l'artisanat, quoi. On est dans
l'artisanat,
le pointu, et voilà, l'envie de bien faire. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller sur le site, hein, qui est vraiment très très cool aussi. Pareil, hein, tu peux voir un petit peu les différents métiers. Donc voilà, et comme je disais, ça, c'est vraiment un épisode qu'on pourrait faire à part. Et j'espère qu'on le fera un jour.
Avec plaisir.
Quitte à ce que je vienne sur Nîmes et tout, le faire en direct de là-bas, ça peut être vraiment très, très cool. Donc voilà. Et donc, ça nous amène à Détroit. Mais ça, on en parle un petit peu après. On va passer à Jonathan. Voilà.
Je t'invite à découvrir Nîmes, en tout cas. Très, très, très belle ville.
Ben, alors, j'y suis déjà allé, quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des belles arènes. Notamment.
Ouais, pas que. Mais ça en fait partie.
Il me semble qu'il y a pas mal d'artistes, même les Daft Punk, puisqu'on parlait aussi de Ed Banger, qui ont joué là-bas.
Il y était.
Donc, non, Nîmes, très, très beau, très, très belle ville. Donc, Jonathan, pareil, donc Nîmois.
Ouais, Nîmois aussi, Nîmois de cœur, voilà. C'est une ville que j'apprécie.
Et un autre parcours, en tout cas jusqu'à Détroit, un autre parcours.
C'est ça, un autre parcours. Vu qu'on commence par Nîmes, ouais. Je vais me définir comme un créatif entrepreneur. J'ai entrepris pas mal de choses dans ma vie, mais là actuellement, j'ai cofondé un festival qui s'appelle Nîmes Illustre, qui est un festival d'illustration, donc qui met en avant tous les illustrateurs, nos beaux illustrateurs français, dans notre belle ville de Nîmes. Donc elle met en lumière la ville et elle met en lumière les illustrateurs. Donc
c'est beau.
C'est un bon petit match.
Combien d'années par rapport à ce festival ?
Alors là, ça va être la 4e année, même s'il y a une année un peu zéro, de pré-lancement, on va dire.
Ouais.
Donc, ça va être la 3e année.
Okay.
Moi, je m'en occupe plus. C'est Sarah et Margot qui gèrent ça hyper bien. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps.
Ben ça pourrait être un sujet en soi aussi, tu vois. Il y a...
On pourrait faire Nîmes Illustre à l'atelier de Nîmes.
Tu exactement, tu vois, il y a vraiment trois invités, multiples possibilités. Mais alors, donc, en dehors de ce festival, tu as aussi créé une agence de branding.
Le festival, c'était un side project pour mettre en avant ma ville, mais ça me portait à cœur de mettre un peu de couleur dans cette ville qui est trop tauromachique à mon goût. Et donc, du coup, j'ai créé... Moi, je suis dans la création, Enfin, j'ai fait une école de design, etc. Et j'ai un studio de branding qui s'appelle Gilbert Wilson, qui est mon activité principale. Donc, on fait ça depuis longtemps avec un autre associé.
Avec de très beaux clients.
Avec des très
Black
beaux
Coast,
clients.
Lacoste, ouais. LVMH, Chanel.
Exactement, beaucoup de clients de luxe. Et en fait, en travaillant avec ces marques-là, ben, on a des contraintes de production. Forcément, on est amené à proposer des choses à nos clients et on a commencé à proposer des choses en intelligence artificielle et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser un peu de près. Par okay. chance, j'avais...
Attends, on va y arriver.
D'accord.
On va faire la transition après sur l'IA et des trois, tu vois. Donc, Florian, justement, ben voilà, la troisième, on va parler un petit peu de ton parcours. D'accord. Toi aussi, d'ailleurs, on va dire plus de 9 ans en tant que directrice artistique en agence.
Exactement.
Donc voilà, on va dire vous avez un peu le même background plus ou moins. Est-ce que tu peux nous raconter le tien?
Je peux repartir d'un peu plus loin.
Ça commence par la photographie.
Ça commence par la photographie. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée quand j'étais jeune. J'étais aussi très cinéma et je pense que ça a aidé aussi dans la photographie, tout ce qui est justement direction de la photographie, ça me plaisait. Il y avait vraiment une esthétique qui donnait envie de reproduire parfois. Mais j'avais très peur de professionnaliser ça, de me dégoûter en fait de ma passion. Donc j'ai complètement vrillé et je suis partie vers des choses complètement opposées. J'ai fait de la psychologie comme pas mal de gens qui ont fait elle. après, il n'y avait pas de débouché, donc je suis même partie dans un BTS négociation et relations clients. Complètement cherchée. Oui, je testais des choses, mais en fait, c'est ça qui me plaisait aussi, c'était justement d'aller vers des milieux qui ne m'avaient pas attiré de base et de pouvoir apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment à la toute fin de mon BTS que j'ai découvert les métiers de la communication.
Et oui, t'es rentré dans une régie média.
Alors oui.
C'est ça. Toi, c'est ton
Alors ça, c'est
ton
vraiment
départ.
Après justement avoir fini mes études dans la communication et le marketing, je voulais vraiment me tourner vers le digital et c'est là que j'ai été, un peu débauchée par une régie qui était... une petite start-up à l'époque, c'était vraiment les tout débuts, ils étaient 5.
Mmh.
C'est ça que j'ai bien aimé aussi.
Quand tu disais petite start-up à l'époque,
C'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux, ouais. Ils sont un peu plus de 100 maintenant.
Curieux, du coup, bon, vas-y, on peut name drop, hein, c'est pas grave.
Alors, à l'époque, ça s'appelait Tammo, maintenant ça s'appelle Hawk.
Ok, d'accord.
Et du coup, ils avaient pour objectif de se créer, une sorte de studio en interne. Chose que les régies ne faisaient pas.
Mmh.
Et l'avantage d'être arrivé un peu dans les prémices de la construction de cette start-up, c'était y avait tout un nouveau logiciel que pas grand monde connaissait, qu'il fallait maîtriser. Et arrivé dans les premiers, vu que ça monte, on embauche d'autres créatifs. Et j'étais amené à devoir manager une équipe alors que j'étais toute jeune.
Ouais. Et ça, ça t'a pas...
Alors,
tu parlais de l'effet Dunning-Kruger.
Oui, tout à fait.
Intéressant.
J'aime bien cet effet-là et la fameuse montagne de la stupidité, comme on dit. Et je pense que je l'avais bien atteinte. j'étais trop jeune, je pense. Je n'avais pas assez d'expérience dans le milieu pour avoir un assez gros recul, sur le métier de direction artistique. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je parte et que je retourne en agence, retrouver les métiers de la conception et réapprendre. Et ça me manquait, en fait, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise, non, ce que tu fais, c'est bien, mais tu peux faire mieux ou juste, c'est de la merde. J'avais besoin de ça.
Mmh.
Et là, je l'ai retrouvé, du coup, en agence sur Nantes. Et je suis contente.
Donc là, ça fait 9 ans que tu es en agence sur Nantes.
Non, ça fait 6 ans.
6 ans.
Oui.
OK. Ça marche. Et là, on va en arriver aussi à ton arrivée sur l'intelligence artificielle, qui est finalement récente.
Qui est très récente. Voilà. C'est un de mes patrons de ma boîte actuelle, justement, qui est passionné par les nouvelles technologies, qui nous a fortement un petit peu guidés à mettre un nez dedans.
Et on va en parler dans quelques instants, tu vas voir. On va y arriver aussi. Je vais faire la petite virgule. Donc voilà, après ces quelques présentations, on va un peu deep dive dans l'intelligence artificielle et Détroit. Avant tout, on est quand même sur un sujet qui est très visuel. On va parler de beaucoup de choses, on va essayer de les imaginer, mais je pense que ça serait plutôt cool de donner quelques liens si, par exemple, vous écoutez l'épisode et en même temps, vous pianotez sur votre browser. On peut aller, par exemple, sur detroit-talent.com. C'est le site de l'agence qui regroupe donc tous ces talents, ces artistes de l'IA. Et justement, sur le site, ben, vous avez accès à tous les talents, tout le roster. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet un peu de naviguer dans les différents styles. Et il y a aussi Florian, donc, qui a son Instagram. Et le compte, c'est Flo, alors FLOOW.AI.
C'est ça.
Voilà, FLOOW.AI. Voilà, comme ça. On peut se mettre tranquillement dans le mood et regarder, visualiser ce dont on va parler. Alors, on a un peu évoqué ça. Pour chacun d'entre vous, quand et pour quelle raison s'est faite la bascule dans l'IA? Alors, on va commencer par Joe, parce qu'il avait commencé tout à l'heure, je l'ai coupé dans son élan et ça m'a un peu embêté quand même de te couper à ce moment-là. Mais voilà, Joe, dis-nous un petit peu comment ça s'est fait cette bascule.
Ouais, ben, en travaillant pour pas mal de marques avec notre studio Gilbert Wilson, on leur a proposé de produire autrement et de produire avec l'IA. Donc au début, on a commencé par chercher des talents, mais en fait, à l'époque, c'était pas mal de geeks qui faisaient des trucs rétro-futuristes. Donc c'était des mecs qui maîtrisaient la techno, mais qui n'avaient aucun goût. Donc c'était dur de trouver des mecs qui avaient du goût. Donc moi, j'ai cherché pas mal, j'ai fini par en trouver des mecs qui avaient du goût, mais qui maîtrisaient mal la techno. Enfin, ça a été dur de trouver des gens qui étaient capables de répondre aux demandes et aux contraintes d'un client. On a fini par en trouver, et après, en discutant avec Clément, etc., c'est là que lui, qui était vraiment passionné par le sujet, nos discussions nous ont amené à se dire il faudrait monter une agence qui puisse garantir, qui puisse représenter des talents, et puis garantir des gens qui ont un œil, une vision, mais aussi une très bonne maîtrise de la techno.
Ok.
Donc, c'est là que...
Donc, toi, c'est venu d'un besoin client.
C'est venu d'un besoin client.
Et bien sûr, de ton intérêt pour les nouvelles technologies, ta curiosité, bien évidemment.
Parce que ce qui m'anime plus personnellement, moi, c'est le côté... j'aime les chercheurs, j'aime MyCorn, j'aime Neo dans Matrix, ceux qui cherchent du sens, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent à découvrir des nouveaux horizons. Et la création, pour ça, c'est parfait, parce qu'on découvre des nouveaux territoires.
Mmh.
Donc, moi, je suis un fan de Magellan aussi. Je trouve que c'est un mec hyper courageux.
Tu m'étonnes.
Et je trouve qu'en fait, l'IA, c'est vertigineux. Donc, il y a deux manières de le voir. Au début, moi, j'étais un peu réfractaire. J'avais un peu peur, comme beaucoup de gens. C'est une réaction normale face à un progrès aussi fort et aussi brutal. Mais en fait, quand on s'y intéresse de près, on voit que ça nous permet de découvrir des nouveaux territoires.
Okay.
Et donc, quand je vois des chercheurs comme Flo qui explorent des nouveaux territoires, qui collaborent avec l'IA pour créer des nouveaux mondes, moi, je trouve ça
fascinant.
Curieux, fascinant. Et j'ai envie de les représenter, j'ai envie de les vendre, j'ai envie de faire quelque chose avec eux.
Okay.
Et d'un point de vue entrepreneur, j'ai senti qu'il y a une grosse vague qui arrivait, qu'il fallait pas regarder le train passer, mais qu'il fallait faire quelque chose.
Il fallait y aller. Ça marche. Voilà. Clément, en ce qui te concerne, comment est-ce que l'IA est rentrée dans ta vie?
Comment c'est rentré dans ma vie? Oui, mi-journée, je crois que c'était effectivement été 2022 où on avec Discord, là, on pouvait faire un prompt et avoir une image. C'était assez incroyable. C'était bluffant, mais c'est vrai que c'était encore loin de se dire ces images-là, elles vont être exploitables. Avant d'être exploitable. C'était génial, c'était bluffant, mais il manquait un truc. Et puis, au courant de l'année, même pas un an plus tard, tout de suite, là, ça y est, on commence à arriver à avoir un niveau de réalisme assez incroyable. Et,
mais toi, tu le découvres comment, en fait? C'est juste, tu fais ta petite veille ou?
Ouais, c'est de la veille. C'est-à-dire que c'est encore une fois, pour moi, c'est un nouvel outil de création, autant que peut l'être la 3D, la réal. Enfin, c'est un nouveau médium. Enfin, c'est au-delà d'un médium, c'est plutôt un outil de création, quoi, qui rend accessible énormément de choses. C'est ça qui est génial. Moi, je trouve, c'est que tu peux créer des images que tu pourrais pas faire si t'avais pas une prod et beaucoup d'argent derrière. Donc, en fait, c'est nos limites, quoi. N'importe qui chez lui peut faire une série qui se passe où il veut dans le monde, shooter avec des appareils qui valent très cher. Enfin, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. Mmh. Ça remplace, ça donne accès à une prod auquel on pourrait pas avoir accès normalement, quoi.
Quand tu découvres ça, en tout cas Midjourney, toi, t'es à fond, j'imagine, sur Atelier de Nîmes.
Ouais.
Et en parallèle, t'es sur une autre activité aussi, un petit peu de com ou...
Ouais, toujours un peu de freelance etc. Un peu le pied quand même dans la pub.
Ouais.
Ouais, carrément.
Mais c'est ça, voilà, c'est un peu par rapport à cette veille-là que tu découvres.
Ouais, bien sûr,
ça,
c'est une veille, c'est une veille normale quand t'es passionné par la création et que ça fait partie de ton quotidien, en fait. Forcément, tu tombes dessus, ouais.
Ok. Flo, en ce qui te concerne.
Oui.
Toi, effectivement, c'est plutôt en début d'année 2023, même si tu as entendu, j'imagine, parler bien avant, ou en tout cas quelques mois avant.
C'est ça, j'avais un ami, il m'avait partagé une vidéo Midjourney, juillet 2022, et j'avais regardé en me disant « Oh, c'est cool, mais
sans plus.
Ça semblait... Bah, » pas sans plus, mais ça semblait un peu technique, et du coup, j'avais pas pris le temps à ce moment-là. Et c'est vraiment, oui, début 2023, où je commence à mettre le nez dedans et c'est le début d'une petite drogue, hein, on va dire. Hein. Et j'ai passé pas mal d'heures dessus.
Vie
sociale a un peu empathie à ce moment-là. Mais,
tu disais 3-4 heures par jour, après le taf, par exemple.
Oui, voilà, ça, vu que je travaille la journée, bah, du coup, il fallait que je prenne du temps. Je savais qu'il n'y avait que ça. Il fallait que je prenne du temps pour pouvoir le maîtriser. Il n'y avait que comme ça qu'on pouvait découvrir l'outil et le comprendre.
Ouais. Et c'est d'ailleurs dans ton agence, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Vraiment, dans l'agence, on a poussé les créatifs à y aller.
Exactement. J'ai un de mes patrons, effectivement, qui sentait venir un peu le potentiel et qui avait compris un peu assez vite qu'on allait devoir passer en fait, par là.
Mm-hmm.
Et plus vite on allait mettre le nez dedans et moins on allait avoir de retard. Et je pense qu'il avait vraiment raison pour ça.
Mm-hmm.
Et après, c'était en fonction des goûts de chacun, de l'appétence aussi, de l'envie de vouloir justement apprendre de ces nouvelles technologies. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, j'avoue que j'ai un peu foncé dedans. J'aime bien, j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu code, etc. Et j'avais l'impression d'être une codeuse nouvelle génération d'images.
Ok, t'as plongé dedans. On parle beaucoup de Midjourney pour chacun d'entre vous. C'est essentiellement Midjourney que vous manipulez ou vous allez aussi sur du DALL-E, sur du Runway, sur Adobe Firefly ou voilà, je sais pas, Stable Diffusion. Est-ce que c'est tout ça que vous regardez ou essentiellement Midjourney?
Pour ma part, moi, c'est essentiellement, on va dire à 85% Midjourney. Après, forcément, on n'a pas le choix que d'aller regarder aussi la concurrence, hein, les autres logiciels, parce qu'ils évoluent tous à leur vitesse. Et il y en a qui proposent aussi des résultats différents des autres. J'aime beaucoup Runway aussi, pour tout ce qui est vidéo. Il y a Picalabs. Enfin, en fait, il y a des nouveaux logiciels qui apparaissent.
Oui, c'est ça, c'est dur, non ?
Et c'est dur de se mettre à la page, mais on n'a pas le choix si on même par curiosité.
Ouais. Vous, les gars, c'est pareil, c'est Midjourney essentiellement ou...
En termes de rendu, pour le moment, Midjourney, il est au-dessus du lot. Après, il y en a d'autres qui comprennent un peu mieux les prompts, mais qui ont un rendu moins intéressant. En tout cas, quand on cherche en tout cas, du réalisme et un rendu photographique, pour l'instant, Midjourney est au-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a quand même Stable Diffusion, notamment avec Automatic 11-11. Ça permet d'avoir un niveau de contrôle sur l'image qui est génial, quoi. On peut vraiment le nourrir avec limite un croquis et que l'IA s'inspire de ça pour créer la scène. Donc ça, c'est génial. C'est ça. En tout cas, quand on a envie de créer des images qui sont dans notre tête et leur donner vie et pas être drivé par l'IA, c'est-à-dire pas être contraint par l'outil, bah voilà, des outils comme Automatic 11-11, c'est génial. Mais pour l'instant, je trouve qu'en termes de rendu, encore une fois, c'est quand même en dessous de Midjourney. Et après, il y a Confi UI qui est basé sur Stable Diffusion aussi, qui est, qui est fascinant. Alors ça devient, pour moi, ça devient un peu trop technique parce que c'est une interface nodale où en fait on peut créer absolument ce qu'on veut. C'est comme si d'un coup on pouvait créer le moteur qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire en fonction d'un besoin précis, d'un besoin d'une image précise, on peut aller chercher des espèces de modules qui sont spécialisés dans telle ou telle chose. On peut aussi, évidemment, c'est intéressant, mais d'utiliser des modèles qu'on entraîne soi-même, des LoRa. Ça, dans Automatic Eleven, on peut le faire aussi, mais entraîner des modèles en fonction d'une demande très précise.
Ça devient technique.
Mais là, du coup, on est dans de la c'est très technique.
Ce que je veux dire, c'est que l'accès à tout ça, finalement, c'est peut-être...
Là, c'est beaucoup plus dur. Là.
Oui, vraiment, c'est pas le commun, on va dire, des mortels.
Technique, mais en même temps, c'est le début et c'est le Far West. Parce que, par exemple, Stable Diffusion, il y a 2 mois, quelqu'un qui était digitalisé, donc né avec un petit MacBook dans les mains comme nous, il mettait quand même 1 semaine à installer le bordel, quoi. C'était pas comme télécharger Photoshop et l'installer. Donc là, c'est un peu plus facile. Florian, il a balancé un tuto la dernière fois, mais c'est quand même, on est quand même au tout début d'un truc. Je suis pas un technicien comme nos artistes ou comme certains geeks qu'on représente ou comme Clément. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment cette notion de pommesse encore, d'enregistrer sous Stable Diffusion. C'est encore c'est Photoshop 1.0. Donc, c'est quand même magique de découvrir ça et d'évoluer avec eux parce que ça évolue vite.
Je vais faire un parallèle. Peut-être que je vais complètement me gaufrer, mais l'art génératif, en soi, il existe depuis très longtemps, 20e siècle, le milieu du 20e siècle à peu près. Il y a déjà eu... des programmes, le premier programme qui s'appelait Aaron, donc ça c'est on remonte je crois dans les années 60, 1960 ou des choses comme ça, et donc en soi on va dire l'art digital lié aux algorithmes, ça existe depuis longtemps, ok, donc l'IA finalement existe depuis longtemps, c'est là depuis un an, voilà, on en parle, c'est devenu un buzz incroyable. J'ai l'impression que toutes ces IA dont on parle, c'est un peu comme le no-code, tu vois, quand ça a rendu le développement plus simple, tu vois, pour les gens comme moi, par exemple, hein, qui savent pas coder. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ça? Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle du no-code, par exemple, pour ou est-ce que je me trompe totalement?
Par rapport à de l'imagerie, complètement. Par rapport à ChatGPT, textuel et tout, moi je connais pas tous les types d'IA qui sortent en ce moment, mais en tout cas par rapport au visuel, ce qui est notre sujet sur lequel on le connaît bien, même multimédia, c'est-à-dire 2D et animé. Je sais plus ce que je voulais dire.
On était sur l'histoire du no-code, quoi. Est-ce que c'est un peu le parallèle de ça?
C'est quand même une sacrée révolution, quoi, parce que avant, pour faire une prod, il te fallait un studio, un photographe, ses assistants, un lighteux, un mec qui fait la régie pour manger bien, des modèles qui coûtent une blinde, etc., etc., etc. Donc ça avait des coûts faramineux, des grosses équipes. Aujourd'hui, eh ben, les créatifs sont plus contraints. Donc c'est une révolution, c'est comme t'as plus besoin de dev pour monter ta startup ou pour faire un produit tech.
Mais je trouve que ça va au-delà des créatifs, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas créatif peut mettre les mains dedans. Tu vois, j'ai l'impression que ça donne accès, c'est pour ça que c'est plus mainstream au final, quoi, que c'est devenu un sujet, et c'est ça qui est assez fou, quoi.
Et encore, c'est que le début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même sur Midjourney, qui est, on va dire, l'IA la plus accessible au grand public, il y a quand même un langage, une manière de parler pour arriver à avoir ce qu'on veut. On peut imaginer que d'ici 2 ans, ce sera plus le cas. Il y a un parallèle qui se fait souvent, c'est avec le début de Google, où il y avait apparemment j'ai pas vérifié, mais c'est des choses qui se disent, qu'il y avait des gens qui étaient payés pour faire des recherches sur Google, pour savoir comment parler à l'algo, pour pouvoir avoir les réponses qu'ils voulaient. Bon, bah, ça existe plus du tout, ça. L'algo, il est arrivé à être assez performant pour répondre à toutes nos demandes. Donc, on peut imaginer que ça va être la même chose sur Midjourney dans peu de temps. C'est plus ou moins la chose qui est en train d'arriver, a priori, avec ChatGPT-4 et DALL-E, où du coup, il y a
Oui, parce qu'il y a ChatGPT à Vision aussi qui est sorti, avec DALL-E 3 intégré, et qui va permettre aussi de belles choses. Et en plus, dans une IA finalement plus large, quoi. C'est-à-dire, autant tu peux faire des recherches qui n'ont rien à voir avec l'image qu'avec l'image. Donc, ChatGPT 4, j'avoue.
C'est vrai que ça va être l'évolution. C'est balèze. Aujourd'hui, il faut créer un prompt pour pouvoir justement générer ton image, et chaque mot a son importance. Donc, c'est un peu, comme tu dis, le côté code. Je pense que l'avenir, ça va être, tu communiques avec justement une comme Siri, je pense. Et puis, mm-hmm. pas besoin d'être autant précis dans la création de ton prompt. Ça va être un, plus un échange qui va générer une image. Et c'est... Mm.
Oui, c'est un peu ce qui arrive déjà avec ChatGPT 4 effectivement.
Ouais. Oui, parce que dans ChatGPT 4, tu peux même envoyer une image dans ChatGPT 4, lui demander de quel aurait été presque le prompt pour générer cette image. Donc tu récupères la bonne donnée et puis tu t'en resserres.
Mais du journée, tu peux déjà le faire aussi, ça.
Oui. Mais on parlait de cette complexité-là. Je vois que. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que les gens pensent au prompt en se disant slash imagine et puis ok, t'y vas. Mais en vrai, il y a plein de choses. Il y a le slash blend, il y a describe, de ce genre de choses. Il y a, tu vois, là, je lisais un tips il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il y a des jetons basés sur corps. Et donc, si par exemple, tu fais bloom core, émanci core, crystal core, tu peux avoir telle ou telle teinte, telle ou telle orientation pour ton visuel. Ça, quelque part, si t'es pas créa de base, enfin, le fait que vous soyez créa, est-ce que vous avez l'impression que ça vous facilite quand même un accès à l'IA versus d'autres personnes qui n'ont jamais manipulé d'outils?
Nous, ce qu'on dit, c'est que les talents encore présents, déjà, ils ont un œil singulier, donc c'est des créatifs. Donc, ils ont des références créatives. Ils connaissent l'univers du marché, donc ils savent que le marché, il a une esthétique quand même assez élevée des marques. Et en même temps, ils ont une très bonne connaissance de la tech. Donc, ces deux cumulés, ça leur permet d'avoir quelque chose de singulier et en même temps d'avoir une créativité sans limite. Mais si on n'est pas créatif, en fait, c'est ce qu'il y avait au début beaucoup, c'était des geeks qui utilisaient l'IA, mais qui n'avaient pas cette notion de créativité ou d'esthétisme et qui faisaient des images rétro-futuristes, des images un peu nazes, quoi.
Mmh.
Pas très, très belles et qui se ressemblaient beaucoup. Donc aujourd'hui, on arrive à des écritures intimes, photographiques, plus personnelles. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le processus de création, généralement, sur 100% d'idées qui sortent, il y en a 90 qui sont nourries à peu près d'inspiration, de choses qu'on a déjà vues. Et il n'y a que 10% d'idées originelles. Donc là, je trouve que vu qu'on va placer moins de temps dans la production de ces visuels, ou à les mettre en scène, on va pouvoir se concentrer plus sur... ce qu'on veut, quel message on veut faire, quelle idée on veut faire passer, quel esthétisme on recherche, du coup, sur sa propre créativité, sa propre singularité. Et l'outil, après, ben, il fera plus rapidement. Donc, on pourra vraiment se concentrer sur l'idée originelle. Et ça, c'est hyper fort, quand même. Donc, c'est là où c'est pas vertigineux pour moi, la tech, c'est qu'elle va nous aider à être encore plus créatifs, à être encore plus nous-mêmes et s'explorer encore plus à l'intérieur de nous pour recracher des choses jolies, quoi.
Mmh. C'est hyper intéressant. Donc, est-ce qu'on peut parler, on parle de prompt art. Vraiment, c'est quelque chose que vous défendez, j'imagine. Il y en a qui parlent d'aria, de même j'ai vu de GANisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le GANisme. GAN, pour réseau antagoniste génératif. Donc, c'est une autre façon de parler en fait, de l'art lié à l'IA. Donc, voilà. Mais oui, donc, Flo, par exemple, tu disais... le prompt, enfin finalement l'IA, ça a réveillé de nouveau ma créativité à réfléchir autrement, ça fait un petit peu écho à ce que disait Jonathan. C'est ça pour toi l'art du prompt, ça comment dire, ça débloque d'autres aspects de ta créativité?
Oui, je pense. Moi, j'aime bien un peu comparer justement l'IA générative à une sorte de nouveau langage. C'est comme quand on essaye d'apprendre une nouvelle langue et des fois on n'a pas le bon mot et on essaye d'exprimer ce qu'on veut ressentir avec soit les mots qu'on connaît, soit d'autres mots. On va dire ce qu'on veut exprimer, la finalité est la même, mais on ne va pas forcément employer les mêmes mots. Et c'est ça que je trouve intéressant justement dans la création du prompt, etc. C'est que ça force un peu à réfléchir, on va dire, un peu différemment et à s'ouvrir différentes portes. Et du coup, en fait, y a des portes et des fenêtres qui s'ouvrent partout, qui donnent à chaque fois envie de les saisir, qui peuvent ouvrir une autre porte qui n'était pas l'idée de base, et ainsi de suite. Et, et du coup, tout est source d'inspiration à la fin, en fait. Genre, que ça soit un mood global de j'ai passé une mauvaise journée, des fois, je vais me dire, j'ai hâte de rentrer à la maison, je vais me défouler sur mid-journée, ou je vais marcher dans la rue, je vais trouver un portail, je n'en sais rien, avec une forme atypique, je vais me dire, ah tiens, genre, comment j'arriverai à justement trouver les bons mots pour représenter ça? Donc, pour moi, maintenant, tout est source d'inspiration.
Ouais. Et de donc de vocabulaire aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu enrichir son vocabulaire, il faut faire un petit peu de recherche.
Il faut enrichir son vocabulaire et aussi toute sa culture, on va dire, photographique. Ça force aussi à aller se renseigner sur des photographes, d'autres artistes, mais de tout milieu, pas forcément visuel. Ça peut être des musiciens aussi, des fois, c'est un ressenti global qui va forcément influencer le résultat final.
Et d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous utilisez ça, mais c'est vrai que tu parlais de Discord tout à l'heure, il y a beaucoup de fichiers Excel ou autres qui circulent avec des références de tous les peintres, tous les photographes, etc. Ça, c'est des choses que vous utilisez aussi, au-delà d'aller faire des recherches site par site ou par Wikipédia, etc., d'avoir tous ces... toute cette connaissance mutualisée sur des fichiers Excel, ça vous arrive, j'imagine ?
Moi, ça peut m'arriver, effectivement. Pas spécialement pour le style d'un artiste, mais plus pour des données techniques, genre quel type d'appareil photo. Parce que du coup, il y a un aspect, si on veut être précis, il y a un aspect technique. Avoir des connaissances en photo sur quel objectif, le temps d'ouverture, etc. Tout ça, on peut le mettre dans le prompt. Donc, ça influence le...
Donc, tu as un avantage, si c'est ton métier de base, tu as un avantage.
C'est ça, de toute façon, à partir du moment où tu as des connaissances créatives, t'as un avantage dans le sens où, oui, t'as des références. Pour moi, vraiment, c'est un outil. C'est-à-dire que ce serait la même chose. On nous donnerait chacun une feuille de papier et on nous demanderait de répondre à un sujet, entre guillemets. Plus t'as de références créatives et plus tu peux arriver à répondre à ce sujet. Voilà.
Bien sûr. Mais alors, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le futur de l'IA, où tu disais, tu sais, un peu à la façon Siri, ou en tout cas via assistante vocale, tiens, demain, potentiellement, on n'aura plus à faire ce genre de choses, de prompt, tu vois, sur Midjourney ou autre, et peut-être qu'à la voix, en disant tout simplement ce qu'on souhaite, on arrivera à avoir un résultat. Du coup, là, on est dans une phase où, justement, on doit réfléchir à fond, ok, on doit s'éduquer, on doit... Et ensuite, tu penses qu'on va arriver à une phase où on va revenir un peu en arrière, où on va nous simplifier la vie encore, et finalement, tout va se faire en claquant des doigts. C'est quoi que tu as voulu dire tout à l'heure par ça?
En tout cas, enfin, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je pense pas que ça va être plus facile. Ça va être plus facile parce que, mais on va dire dans l'écriture des mots. Mais si à la base tu sais pas déjà ce que tu veux, que tu l'écrives avec juste les bons mots de ton prompt actuel ou de le dire à l'oral dans un langage plus parlé, ça va rien changer si t'as pas les connaissances.
Oui, faut déjà conceptualiser quoi.
Bah, il faut effectivement que tu connaisses un minimum de données techniques et que tu l'écrives justement dans les termes actuels ou que tu lui dis à l'oral, tu auras besoin de l'exprimer. Donc, je ne sais pas trop comment le dire, mais...
Ouais, dans un sens, moi, si j'imagine le futur, si on enlève toute cette partie un peu de langage, de comment parler à l'IA et qu'on arrive à avoir une IA qui est beaucoup plus performante, finalement, on va finir sur des briefs qu'on utilisait... avant que l'IA arrive, c'est-à-dire tiens, j'ai un shoot à faire, j'ai une idée, j'écris mon idée, quel est le type de format, quel style je veux donner, voici un mood, c'est-à-dire c'est un travail de direction artistique en fait. Et à une époque, tu allais voir une boîte de prod et tu choisissais le bon photographe qui faisait la photo dans le style que tu voulais pour mettre en valeur ton style.
Au Moyen-Âge ça.
Oui. Oui, ça revient à ce qu'on disait.
C'est la même chose, ça va être la même chose en fait. C'est juste que y a une simplification de tout ce processus.
Il y a des métiers qui vont
arriver. Qui vont en pâtir.
Oui, non, mais c'est ce que disait Jonathan. Tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais tu as fait un post LinkedIn il y a à peu près 2 semaines où tu disais avant, pour réaliser un shoot, il fallait faire appel à un photographe, un assistant, des modèles ou un studio, un set designer, un directeur artistique, un régisseur, un chef électricien, un maquilleur, etc., etc. Mais bon, ça, c'était avant. Donc vraiment, on est passé dans cette nouvelle phase qui, quelque part, pour certains métiers, donc j'imagine qu'il doit y avoir un peu une frayeur, quoi. Est-ce que vous, parmi les gens que vous côtoyez, justement, est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous avez eu des retours sur ça?
Déjà, dans chaque grande innovation de ces 150 dernières années, il y a eu des gens qui sont réfractaires et au début, ça fait assez peur. Ce qui est tout à fait normal, même moi, j'ai eu peur pour mon métier de graphiste, tu vois, à la base. Je me suis dit, ah putain, ça va être dur, quoi. Et en final, je m'y suis intéressé. J'ai vu que je pouvais aller explorer d'autres univers auxquels je n'avais pas accès. Et donc, j'ai plutôt embrassé la technologie et embrassé le futur. Donc, j'ai vu toutes les opportunités qui s'offraient. Donc, je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Tu vois, il y a encore les agents associés qui se disent « Ouais, il faut qu'ils militent, qu'ils sont dans cette peur-là. » Donc, ce qui est compréhensible. Il faut respecter le droit des auteurs traditionnels, illustrateurs, photographes et tout. Mais je pense que ces talents-là, ils ont une force, c'est qu'ils sont déjà créatifs. Donc, s'ils embrassent cet outil et cette techno, ils vont pouvoir faire encore plein de choses.
Mais attends, je te donne un exemple très concret, parce que j'en parlais hier avec un pote, ben, moi, justement dans l'agence dans laquelle je travaille, on parlait un petit peu de l'IA et de comment on l'utilise au sein de l'agence. Et il me disait, ouais, c'est marrant, parce que finalement, il y a un corps de métier par lequel on passe beaucoup moins. Par exemple, c'est les storyboarders. Tu vois, et donc quelque part, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui fait du storyboard et qui se dit potentiellement c'est vrai. Et du coup, ça serait quoi ça, tu vois, si on devait imaginer.
Il y a des métiers qui vont être supprimés, mais il y en a d'autres qui vont être créés. Donc après, il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et accélérer. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, on apprend un métier pendant 5 ans, on le fait toute notre vie, mais ça, c'est un peu fini. Je pense que bientôt, on fera des formations de 6 mois, 1 an, on fera notre métier 4, 5, 6, 7 ans, et puis après, on évoluera. Et en plus, c'est plus logique avec le développement humain que d'apprendre un métier quand on est jeune et faire tout le temps sa vie. Même, c'est plus pareil. Tout ça, ça va évoluer.
Ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est un changement de mindset et
global,
très sociétal, finalement.
Ça. Après, j'avoue que ça accélère vite et fort avec l'IA. Donc, ça donne encore plus le vertige. Mais il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Et pour les marques, pour le futur, c'est incroyable. Elles vont pouvoir raconter vraiment énormément de choses. Et toute leur histoire, toute leur anecdote, que ça soit de l'imaginaire pur ou des histoires réelles, elles vont pouvoir le mettre en scène de manière assez simple. Et je pense que pour le public, il va pouvoir recevoir des pubs plus personnalisées, plus esthétisantes, plus jolies, et boire du contenu qui est plus sympa à regarder que des pubs produits avec des prix, des promos dégueulasses, quoi.
Alors, c'est bien, tu voulais rebondir peut-être.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où il y a plein de métiers qui vont être supprimés, il y a des parallèles qu'on peut faire aussi avec, je trouve, l'arrivée de la 3D. À un moment donné, j'imagine que c'était un peu, on était un peu trop jeunes pour voir ça, mais peut-être eu des gens qui ont eu aussi très peur de l'arrivée de la 3D. Donc, ça a pas tout remplacé non plus. Et surtout, on pourrait imaginer que c'est un mec devant son ordi fasse tout. Et finalement, il y a des spécialités. Dans la 3D, il y a un mec qui va être plus spécialisé sur la réal, l'autre qui va être sur le modeling, l'autre qui va être sur le
lighting. C'est un bon exemple.
Donc au final, peut-être que l'IA, ça va arriver là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on va oser avoir une spécialisation à travers l'IA. Donc c'est peut-être les chefs-op.
Spécialité prompting pour tel truc, ce genre de choses.
Peut-être qu'il y aura une sorte de chef-op de l'IA et tout son background de vrai chef-op, bah, il servira aussi là-dedans parce qu'il a des connaissances de la lumière et qu'est-ce qui fait qu'une image, elle est réussie et pourquoi et quelle lumière est intéressante et sert encore une fois le propos. Quoi. Donc,
le dessin animé, c'est un bon exemple parce que le mec qui faisait des planches de Mickey et qui pour faire une scène d'une seconde, il en fallait 24, donc il y passait un mois. Au final, les Mickey, la narration, elle était pétée. Alors, quand il y a eu la 3D qui est arrivée avec Pixar, ils ont fait beaucoup plus de blagues, les discours étaient plus marrants. Et au final, l'idée originelle, elle a pu être plus bossée plutôt que passer du temps à faire des petits dessins 24 images par seconde en dessin.
Oui.
Donc, je pense que les mecs qui faisaient du dessin, s'ils ont évolué, eh ben, ils avaient largement une patte chez Pixar, tu vois, parce qu'ils savaient comment déjà ça fonctionnait. Et là, c'est un peu pareil. Je pense que ça soit les codeurs. Moi, je vais pas me mettre au no-code demain, parce que je suis pas dev ou je maîtrise pas le truc. Je suis pas ChatGPT va m'aider pour du droit, mais je suis pas avocat non plus. Par contre, nous, on est créatifs, on maîtrise les métiers visuels, donc je pense qu'on est légitime à foncer là-dedans, quoi. Voilà.
C'est un nouvel outil. Et ouais, effectivement, faut pas avoir peur de. Peu importe en fait le métier que tu as dans la création, je pense qu'il faut pas avoir peur. Un Rothman, par exemple, on parlait tout à l'heure du Rothman. En vrai, encore une fois, je parlais d'Automatic 11-11, tu le nourris avec un croquis. Le futur du Roth, pour moi, c'est ça. C'est des choses qu'on est en train de développer justement nous avec notre offre sur mesure, de pouvoir faire des storyboards qui soient vraiment au plus près de ce que veut un réal ou ce que veut des créatifs. Et encore une fois, pour le moment, en tout cas, c'est le top d'avoir un Rothman qui te fait l'angle parfait de ta caméra avec l'action parfaite, etc. Et tu mets une surcouche de DIA là-dessus pour avoir un rendu qui est ultra réaliste et qui te permet permet de te projeter à fond. Donc ça, non, moi je pense que pour le moment, en tout cas, voilà.
Ouais,
tout bien. Et puis ça évoluera encore une fois. Peut-être le Rothman, du coup, il sera moins à crayonner, mais c'est peut-être lui qui dira quand même les prochains, qui s'occupera de gérer la création des nouveaux roughs, des nouveaux storyboards, peut-être en mettant moins la main à la pâte, mais il a tout ce background qui fait que dans tous les cas, ça reste le spécialiste de ça. Donc,
il va falloir devenir hyper agile.
Il faut avoir envie de changer d'outil.
Mais est-ce qu'on est, tu vois, dans la théorie des 10 000 heures, par exemple? Parce que, tu vois, il y a la fameuse théorie des 10 000 heures pour être expert, tu vois, de quelque chose. 10 000 heures, c'est quand même pas mal. Je sais pas combien t'en as passé, toi, Flo, mais je pense pas que tu sois encore aux 10 000 heures, tu vois. Donc, de changer comme ça, d'évoluer dans son métier, dans son expertise, c'est pas, là, on en parle, ça paraît simple. Ça doit pas être si simple quand même, tu vois, de permuter comme ça. Donc, voilà, moi, j'entends le discours et en même temps, je vois pas la simplicité derrière tout ça.
C'est une expertise, à la limite, oui, effectivement, de l'outil, mais il y a quand même tout un background qu'on n'oublie pas. Si on prend l'exemple, par exemple, de ce Rothman qui va, du coup, faire plus ses roughs en étant aidé par l'intelligence artificielle, il a toute sa connaissance, tout son background de qu'est-ce que c'est une image qui fonctionne, comment valoriser un plan, etc. Il l'a toujours. Donc, c'est l'outil qu'il faut, effectivement.
Aujourd'hui, le Rothman, il fait des storyboards, dessins. Demain, il fera un cinématique, tu vois. Toujours avec son style, toujours avec tout ça.
Ouais.
Simplement. Okay. Et il peut se mettre à la page sans non plus 10 000 heures de formation.
Oui, ça, on peut s'en passer.
Il faut qu'il ait l'envie et puis qu'il embrasse la techno, plutôt qu'il soit réfracteur, c'est tout.
Il va y avoir des outils qui vont simplifier le truc, qui vont être très spécialisés, des IA qui vont se spécialiser pour tel type de métier, c'est déjà un peu le cas. On voit qu'il y a des IA qui deviennent très spécialisées sur des tâches spécifiques qui simplifient le process. Par exemple, pour les architectes qui veulent faire des rendus, il y a des outils qui sont spécifiquement développés pour eux et qui, du coup, parlent le même langage qu'eux et leur simplifient le travail, quoi. Enfin, en tout cas, le rend plus rapide,
ouais. Donc ça, c'est l'avantage essentiel de l'IA. On parlait des 10 000 heures. Toi, par exemple, avec tes 3-4 heures par jour, tu parlais aussi d'énormément de rencontres que tu as pu faire pendant tous ces mois. J'imagine que tu as aussi mangé beaucoup de tutos, par exemple. Ça fait partie des choses. Tu as préféré, toi, expérimenter par toi-même en te disant « Ah, je vais me tromper, mais c'est pas grave, j'y vais.
» J'ai commencé quand même par regarder des tutos pour avoir une sorte de base. Et après, j'avoue que très vite, je suis partie. J'ai un peu testé par moi-même. Enfin, je trouve qu'il n'y avait que comme ça. Il n'y a que l'expérience, je trouve, qui aide à avancer dans un logiciel. C'est comme After Effects. Tu peux regarder 10 000 tutos, mais si toi, tu ne t'entraînes pas sur le logiciel en lui-même, tu ne vas pas progresser. Donc Midjourney, il fallait le maîtriser en le testant.
Mais quand même en regardant aussi, on parlait des spécificités, en tout cas du langage, du vocabulaire qu'il fallait avoir. Il faut quand même aller, j'imagine quand t'as pas tout ce vocabulaire, aller chercher les bons termes à droite et à gauche.
Au début, tu les as pas, mais très vite, toi, tu te crées ton propre vocabulaire à toi, en fait. Après, tout dépend comment tu utilises le logiciel, mais si tu l'utilises, on va dire, pour avoir ta patte à toi, t'as pas besoin non plus de vouloir maîtriser tous les langages existants, parce que tu t'es créé justement ton propre style, donc tu as ton propre vocabulaire.
J'aimerais te relancer sur un sujet, Jonathan, et même toi, hein, Clément, pour en revenir au format un petit peu agence de pub, de communication, etc. On parlait de l'utilisation de l'IA, par exemple, un petit peu en phase de pitch, finalement, d'appel d'offres, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences ou de structures qui utilisent l'IA maintenant pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un risque avec ça de faire de l'over-promising, tu vois, ou en tout cas de montrer des choses hyper belles, craftées, qui paraissent formidables, etc. Mais finalement, le projet est vendu. Et ensuite, pour le réaliser...
Tu peux le faire en IA.
Alors sur du print, oui, tu peux le faire en IA. Et sur la vidéo actuellement, s'il y a un storyboard de fou, ce fameux storyboarder, il a progressé, il fait un cinématique de bâtard avec des moyens d'Interstellar, sauf qu'ils ont des moyens de... ils ont 100 000 balles pour faire un Interstellar. Soit tu peux le faire en IA, mais en vidéo, on peut quand même pas tout faire comme sur du print. Mais par contre, je pense que ça va emballer le client, ça va le séduire. Donc peut-être que s'il avait 100K pour faire son Interstellar, il va dire « Bon, bah, en fait, si on veut réussir à ce niveau-là d'exigence et de beauté craft. Et de craft, eh ben ouais, il faut qu'on allonge un peu plus, quoi.
Oui.
Donc pour l'agence, en fait, c'est pas sur prometteur, c'est bien vendeur.
Ouais, moi je pense que c'est pas au niveau de l'agence que ça bloque, parce que les budgets ils peuvent aussi se décider après. On arrive à débloquer des budgets en fonction de la créa, ça arrive. Il y a un budget initial. Non, à la limite, effectivement, c'est plus pour les boîtes de prod que ça peut être overpromising, parce que quand tu rends une note, c'est voilà en fonction du budget. Alors tout se négocie, mais voilà en fonction du budget ce qu'on est capable de faire. Et si tu montes des choses qui sont trop craftées par rapport au budget, effectivement, c'est problématique. Mais c'était déjà le problème actuel. Une note d'un réal qui va aller chercher sourcer ces images pour te projeter dans une idée à partir de films qui coûtent excessivement cher s'il y a un petit budget, c'est aussi de l'overpromising, donc ça change pas grand chose.
Et les boîtes de prod, il y en a beaucoup qui nous ont appelé, qui étaient hyper curieuses, parce qu'en fait il y avait des marques qui leur disaient bon ben il y a tel et tel réal que j'aime bien ou tel photographe que j'aime bien, est-ce que vous avez un équivalent en IA? Et en fait, elle était là, non, pas trop. Et en fait, nous, on peut accompagner les boîtes de prod pour leur permettre de répondre à leurs clients en leur disant, bon, ben, on peut proposer une piste en IA avec le budgétisé, avec tel talent, comme si c'était un photographe, quoi. Et donc ça, les boîtes de prod sont quand même hyper intéressées pour pas perdre leurs clients, pouvoir continuer à les conseiller, mais avec un autre outil, quoi.
Ouais, d'accord.
Et donc, ils font pas mal appel à nous pour ça.
Bah tiens, on va du coup basculer vraiment sur Détroit. Donc, on va revenir sur l'histoire. Tout à l'heure, j'ai un peu coupé, mais voilà. Donc, toi, tu parles de Détroit. Il y a eu un déclic par rapport aux demandes de tes clients. Tu vas chercher aussi Clément. Comment se fait donc c'est quoi la discussion qu'il y a à ce moment-là?
Clément est un ami déjà. on travaille dans les mêmes bureaux, donc il y a des échanges quotidiens. Et par rapport aux insights de mes clients des maisons de luxe, je sens qu'il y a une opportunité. En plus, moi, j'ai envie de faire quelque chose avec l'IA. Donc, soit je serai un créatif IA, mais j'ai envie, en fait, je vois tous ces talents émerger. Moi, je me dis, j'ai envie de les représenter. J'ai côtoyé beaucoup d'agents d'illustrateurs en ayant fondé Nîmes Illustre. J'ai pas fait agent d'illustrateur, mais ça m'aurait bien plu aussi. Là, je me dis, il faut représenter tous ces talents qui sont merveilleux. Et essayer de les vendre. Au final, moi, dans ma carrière, j'ai commencé en créatif, mais maintenant, je finis plus en entrepreneur et en vendeur, quoi. Je vends beaucoup. Donc, j'adorerais vendre ces talents, quoi. Ces chercheurs, ces explorateurs, pour moi, c'est fabuleux.
Mais comment vous les repérez, justement, ces talents? Parce que, voilà, on voit beaucoup de choses hein, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, même moi, hein, je pourrais très bien générer des visuels finalement pas trop moches, tu vois, qui ont une certaine esthétique. Donc, il y a une étendue assez vaste, hein, tu vois, de talents. Comment vous faites ? C'est quoi les critères ?
On les a cherchés par rapport à... Parce qu'ils avaient une patte et un style singulier. Mm-hmm. C'était important que leur travail soit cohérent. Et après, on les a challengés sur la techno. Est-ce que c'est eux qui drivent la techno ou est-ce qu'ils sont drivés par la techno ? Et est-ce qu'ils sont après capables de répondre à un brief, capables d'avoir une exigence opérationnelle telle un DA? Est-ce qu'ils connaissent les exigences du marché où ils travaillent, etc. Et en fait, il y a beaucoup de graphistes, d'archi, de DA, de motion, donc des gens qui sont du métier, en fait.
Au final, on s'aperçoit ça, c'est que ceux qui arrivent à développer une esthétique intéressante et singulière, c'est des gens qui, effectivement, sont créatifs à la base et utilisent ça comme un outil. Parce que, comme tu dis, n'importe qui peut prendre Midjourney et finalement recopier une trend actuelle et générer une image qui est étonnante et bien faite, mais sauf qu'en fait, elle va ressembler à tout ce que fait tout le monde, puisqu'il fait ce que tout le monde fait, quoi.
Et donc, voilà, est-ce qu'on peut trouver avec l'IA un style, une signature, comme on pourrait dire qu'un Picasso est un Picasso, pour être un peu plus récent, un Macbeth, puisque je pense que vous aimez bien Macbeth est un Macbeth, un JR est un JR. Voilà. Est-ce qu'on arrive à trouver ça? Et parmi les talents, d'ailleurs, que vous avez, on va parler aussi de Flo, d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une signature? Se dire, tiens, ça.
Complètement. Déjà, Flo, moi, je trouve qu'elle a un style minimaliste et poétique. Et comme je lui dis, je prends n'importe quelle photo de ton Instagram, je ne sais pas combien il y en a, il doit en avoir 500 ou 1000. Et j'en prends 6, si je fais un puzzle de 6, ça sera tout le temps cohérent dans la même veine. Donc, en fait, elle a trouvé sa patte. Et, ce qu'elle aime, et c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'elle aime, en fait.
Ouais.
Ce qu'elle vient du cœur, quoi.
C'est vrai que tu as parlé de poésie. Moi, ce qui a fait que... Parce que à la base, on devait faire l'épisode tous les trois. Et après, j'ai vu aussi le travail de Flo et j'ai demandé, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir flow.ai dans l'épisode, ça serait hyper cool. Mais oui, j'ai été aussi un peu touché, tu vois, par l'émotion qui se dégage. Je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça en AI. Et j'avais l'impression presque que c'était des photos qu'on aurait pu faire en shooting classique. Incroyable. Enfin, voilà, j'ai eu ce petit saut, quoi.
C'était un peu l'objectif recherché de pouvoir dégager de l'émotion à travers l'image. J'ai pas de plaisir à créer une image composée, mais qui dégage rien. Et c'est vrai que, on en parlait au début, moi, j'ai vraiment cette passion pour le cinéma. Et pour moi, genre, enfin, une image réussie quand je la sors, c'est quand elle me procure une émotion.
Et en fait, son travail est assez minimaliste. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que, à l'inverse de plein de gens qui font des images complexes parce qu'ils peuvent se le permettre grâce à l'IA, elle a pris le parti de faire quelque chose de minimaliste et de passer qu'un message par image. Et en fait, tu te dis, ah, mais en fait, on peut faire des choses poétiques, simples, douces, féminines, qui se rapprochent vraiment de la photo, mais en IA. Et ça, en fait, c'est trop cool, quoi. C'est fascinant.
On est dans un monde de surconsommation de contenu. Nos yeux, ils sont attaqués en permanence par plein de choses. Et justement, l'IA, des fois, génère des images avec énormément de composants. Donc, tu as plein de choses à regarder. Mais en fait, du coup, tu as trop de choses à regarder. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu le petit détail. C'est effectivement genre, aller chercher plus loin. Et ça, quand il n'y a pas grand chose dans l'image, je veux dire, en termes de contenu, t'as envie de creuser derrière et de comprendre l'histoire derrière peut-être juste une pomme ou juste une main, et c'est beaucoup plus effectivement story, il y a un plus gros storytelling, je trouve, derrière.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec l'IA alors le plagiat existe, voilà, IA pas IA, le plagiat existe, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'IA, ben voilà, le style de quelqu'un, la signature soit facilement volée, aspirée, tu vois, et que finalement l'œuvre perd de la valeur. Je regardais non pas un tuto, mais en tout cas une vidéo sur YouTube, une youtubeuse qui est dans le domaine, et qui racontait comment un artiste comme, je sais pas si vous connaissez Jonas Peterson, c'est un artiste IA, voilà, qui a 400K sur Instagram, voilà, il s'est fait sa petite communauté, quoi, et je le connais pas plus que ça, mais j'aime bien ce qu'il fait. Et en fait, elle a démonté dans sa vidéo la façon dont il a fait ses photos, donc voilà, le style de Wes Anderson, ceci, cela, je rajoute justement tel détail, etc. Et c'est vrai qu'en voyant cette vidéo, je me disais, putain, ça me semble compliqué pour un artiste, tu vois, de d'évoluer, tu vois, de vivre là-dedans. Beaucoup de gens, hier encore, on me disait, je demandais à des copains, pareil à l'agence, qu'est-ce que vous aimeriez que je pose comme question, tu vois, demain. Les deux m'ont dit quelque chose dans le genre, ouais, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme de l'art, tu vois, vu que tout le monde peut plus ou moins aller peut-être voler un algorithme, ou en tout cas reproduire plus ou moins la même chose, voilà. C'est quoi votre point de vue là-dessus?
Déjà, se faire voler ou copier, c'est un honneur, je trouve, pour un artiste. Ça veut dire qu'il a déjà une existence, que son œuvre a une existence et de la visibilité. Et puis après, je pense que le fait que déjà on représente aussi des artistes chez Détroit, ça leur donne une crédibilité en plus, et ça assoit, bah, eux, ils ont fait cette image à un instant T. Et donc, si après c'est copié, bah, en tout cas, nous, on pourra savoir d'où ça vient, la vérité, quoi. Ça soulève une autre question. Je pense que le fait de copier, pas copier, bon, bah, c'est une possibilité de se faire copier. Nos artistes, c'est des artistes qui ont des idées quand même originales. On fait très attention à ça, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de copieurs aussi. Donc, on va chercher ceux qui ont été les premiers à faire ce style-là, comme Joanne, une autre artiste, qui s'est fait pas mal copier par la suite. Mais par contre, ça soulève une autre question, c'est sur les questions de droit d'auteur. Pour les marques, c'est assez important. Et nous, on a travaillé avec une boîte de conseil en propriété intellectuelle, donc des avocats, et on ajoute de la complexité dans une image en ajoutant des matières qui nous appartiennent, un ciel qui nous appartient, ce genre de choses, pour pouvoir vendre une image et qu'on en soit propriétaire.
Ah oui.
Parce qu'aujourd'hui, sinon, vendre une image qu'on a conçue avec Midjourney, il y a encore un flou juridique. Donc tout ça, ça va être voté par les députés européens avec l'IA Act et tout, mais c'est encore le Far West à ce niveau-là.
Je crois qu'il y a Shutterstock aussi qui vient de sortir une sorte de mise à jour où ils permettent
Shutter et Getty, ouais.
Ouais.
Alors Getty était contre, Et puis un an après, tu vois, ils sortent leur IA, donc tu vois bien qu'ils sont, ils sont fait dépasser. De toute manière, Getty et Shutter, c'est l'ancien monde. Hein.
Mais ils s'y mettent.
Ben, ils s'y mettent parce
qu'ils sont, oui, sont obligés. Obligés voilà. Ils sont obligés.
Et en fait, sur ces questions de droits d'auteur, je pense que ça va être régulé rapidement. Mais aujourd'hui, nous, avec Détroit et avec nos talents, on a trouvé notre méthode pour pouvoir vendre des droits d'auteur.
D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu, on est encore un peu dans la bonne temporalité, puisque le 1er et le 2 novembre, il y a eu le sommet transatlantique, il est dur à dire celui-là, ce transatlantique, sur la régulation de l'IA. Vous avez un petit peu suivi ce qui s'est dit, hein. Il y a eu une sorte de déclaration de Bletchley qui en est ressorti. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit
si,
peu.
On a suivi ça quand même de près. Nous, par rapport à la législation, alors aux États-Unis, ils sont en avance. Il y a déjà eu des procès qui ont été légiférés et qui ont donné suite. Donc, ils nous donnent déjà des premières réponses. Mais en fait, pour se dire, on a 100% le droit ou 100% pas le droit, il faudrait que ça soit jugé déjà 100 fois, 150 fois pour se dire, c'est bon, c'est déjà passé. En France, il n'y a rien qui a été fait. L'IA Act va devoir moduler tout ça. On l'attend, mais les députés européens, ça va être que des réfractaires qui vont vouloir contrôler le truc et brimer la créativité. Donc nous, on va quand même foncer.
Aller c'est ce que, je dis, c'est ce que j'allais dire, pardon, excuse-moi. C'est vrai qu'il y a ce débat entre si on légifère trop tôt, peut-être qu'on va stopper l'avancée créative.
Nous, on est sur l'image, donc on va foncer à voir ce qu'ils vont faire sur l'image. Je pense qu'il leur fait peur pas mal, c'est sur l'automatisation dans plein de domaines, notamment textuel avec ChatGPT ou autre, mais sur l'image, ça va être un sujet. On va voir comment ils y répondent. En tout cas, nous, on a trouvé les manières de se protéger. Et on est déjà un peu en avance par rapport à la France parce qu'on l'a fait par rapport aux États-Unis.
Non, je voulais revenir vite fait sur ta question tout à l'heure sur est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art.
Mais ça te titille, ça.
Oui, parce que ça, encore une fois, pour moi, c'est un outil. Donc, tu peux donner des crayons de couleur à quelqu'un, il peut te faire de l'art ou il peut ne pas te faire de l'art. Donc, c'est une histoire d'outils, c'est une histoire de qu'est-ce que tu veux dire derrière, qu'est-ce que tu développes comme message, comme esthétique, etc. Donc, si tu utilises l'IA pour plagier le travail de quelqu'un de célèbre, ben non, c'est pas de l'art, c'est du plagiat, mais c'est la même chose dans la peinture. Si tu fais du faux Van Gogh, tu peux être un très bon technicien parce qu'arriver à faire du faux Van Gogh, c'est très dur, mais artistiquement, t'auras aucune notoriété parce que c'est pas très intéressant ce que tu fais.
Oui, mais tu vois, tu parles de la peinture. Je pense, hein, je vais essayer de traduire, on va dire les arguments qu'on a pu me donner. Tu vois, mais tu parlais de Van Gogh. Van Gogh, il a un style avec son pinceau. Tu peux reconnaître, pas moi hein, bien sûr, mais les experts vont reconnaître. Ok, ça, c'est du Van Gogh, etc. Mais je pense que les gens n'arrivent pas à se dire qu'avec le numérique, il peut y avoir cette fameuse trace aussi évidente, tu vois, pour aller. Donc, comment tu remontes à la source? Comment là, tu sais que c'est lui qui est.
Tu parles d'un point de vue légal, justement, on parlait d'art. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? C'est pas la même chose. C'est pas le même sujet. Est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est une esthétique ou une idée, un concept qui a été développé, qui est original et qui est pas celui de quelqu'un d'autre. Ça peut être de l'art. Si tu fais la même chose que celui d'à côté, en tout cas si tu intentionnellement tu recopies, c'est compliqué de considérer ça comme de l'art. Ou alors il faudrait même que ce soit un concept en soi de recopier. Mais bon voilà.
Ouais.
Donc, c'est pas une notion légale du coup. C'est une notion de création pure. Est-ce que c'est intéressant?
Tu veux copier Flo, tu peux copier une image, mais la Flo, elle a mis l'image dans le même style. Tu dis voilà, son œuvre, elle est là en fait. Tu vois,
oui.
Global.
Oui.
Vois, c'est ça.
Je vais raccrocher d'ailleurs, tiens, avec Flo, et donc ça va faire peut-être le pont avec tout ça. Mais t'as eu aussi une expérience dans le Web 3 et dans les NFT. Est-ce que par exemple pour toi les NFT, la blockchain, ça peut être aussi quelque chose qui vienne valider tout ce travail qui est fait avec l'IA, qui en tout cas qui permette de le valider plus facilement?
Disons que ça crée une trace, mais comme Instagram crée une trace aussi, mais ça va pas empêcher de te faire plager par quelqu'un d'autre aussi. Hein. J'ai d'autres personnes autour de moi qui se sont fait plager leur style et qui ont créé des NFT derrière. Donc c'est vrai que c'est plus dur à suivre, mais pour moi, c'est la question de plagiat, c'est pas...
Oui, mais tu as une traçabilité avec la blockchain qui, en tout cas, te permet, tu vois, de... voilà, de te dire à l'instant T, c'est telle ou telle personne, tel ou tel artiste qui a créé la chose, quoi.
Oui, mais...
Ça pourrait être une possibilité de, d'NFTiser tous tes visuels, mais c'est, je ne connais pas la complexité de Kiada, mais ça pourrait être ça.
Après, je pars du principe qu'un artiste, il est censé vivre sur le long terme. Et effectivement, ce qu'il va dégager, ça ne va pas être au travers de deux images. Et un copieur, il ne pourra, pourra pas réussir à faire dégager exactement la même chose. Et pour moi, ça, c'est dans n'importe quel... quel métier artistique et avec n'importe quel médium, tu peux te faire voler un, tu peux aimer un photographe et essayer de refaire à peu près la même chose. Tu peux, Wes Anderson, il s'est fait plagier par 1000 personnes là, sur TikTok dernièrement. Enfin, mais on le connaît pour cette patte-là et je pars du principe qu'effectivement, les artistes vont sortir du lot parce qu'ils se sont fait repérer à un moment donné.
Surtout si tu arrives à plagier et à faire mieux que l'artiste original. Bah, probablement que c'est que tu as un certain talent et que tu développes ton style. En vrai, n'importe quel artiste, quand tu commences, tu t'inspires, tu recopies. Tu... Enfin, moi, je sais pas.
Tout le monde a fait ça.
Tout le monde fait ça. Tu t'inspires de ce qui existe. Et ou tu essaies de faire exactement la même chose et ça n'a pas d'intérêt parce que du coup, tu recopies et tu fais la même chose. Ou tu t'inspires, tu apprends de ce style-là et tu transcendes ça et tu vas plus loin et tu fais autre chose de nouveau qui est inspiré par, mais qui n'est plus la même chose. Donc, c'est pas grave, du coup, c'est un cheminement pour arriver à ton style propre.
Il y aura des voleurs, mais ce ne sera pas la majorité. C'est quand même des créatifs qui sont en quête de sens, quelque part, en faisant ça aussi. Quoi. Pas que...
Ça facilite l'accès à tout le monde au plagiat, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il en restera de ça? Pas grand-chose.
Oui, il y a une sélection qui va se faire de toute façon, ne serait-ce que par le temps, comme tu disais. Bon, mais voilà, ils ont leur réponse. En tout cas, ils ont leur réponse.
Dans d'autres questions, tes collègues.
Point de vue, en tout cas.
Mais... Dans d'autres questions, tes collègues. Là, pour y répondre.
Non, mais du coup, par rapport à, on va rester un petit peu sur Flo et sur cette notion de artiste IA. Toi, justement, comment tu te vois là-dedans? Est-ce que finalement, c'est un chemin, voilà, que t'as trouvé et t'as envie de poursuivre, t'as envie d'exposer, t'as envie comment dire? D'avoir ce parcours avec l'IA comme n'importe quel artiste peut l'avoir sur d'autres domaines.
J'avoue que ça s'est fait naturellement et assez vite. À la base, j'avais créé mon compte Instagram pour me forcer, on va dire, à poster tous les jours et pouvoir justement pratiquer parce que j'avais envie de le maîtriser. Donc, je me suis dit, si je me force à poster tous les jours, je vais forcément m'améliorer. Et c'est effectivement en m'inspirant au début pour maîtriser la machine que je me suis créé mon propre style au fur et à mesure. Et là, du coup, j'ai rencontré Clément et Jonathan pour Détroit. Et ça a ouvert, on va dire, des possibilités que je ne m'étais pas forcément posé comme question non plus. Et aujourd'hui, oui, vu que je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais, j'ai envie de dire, c'est tout bénéfique pour moi de continuer à faire ce que j'aime.
Mais tu peux avoir deux chemins, c'est-à-dire, enfin deux chemins, il va y avoir le chemin avec Détroit, c'est-à-dire répondre aussi à des problématiques de marque, voilà, et puis il peut y avoir ton chemin très personnel finalement, avec ce que tu veux dégager de toi.
Mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre en fait, je peux développer toute une partie, on va dire, plus professionnelle, tout en continuant d'avoir un aspect beaucoup plus personnel si j'ai envie de justement...
C'est ton travail personnel que les marques vont se dire « Ah, c'est beau, c'est poétique. »
Oui, tu viens chercher une touche. Comme à l'époque, on parlait de Macbeth. Tiens, je fais quand Deezer va chercher Macbeth il y a quelques années, tu vas chercher Macbeth parce que c'est son style, ce qu'il dégage et voilà, le rapport à la culture. Quoi. Ouais. Donc ça, en vrai, ça change rien.
Non.
Que ça soit IA ou autre, ça reste artiste, quoi.
Oui, ce qui change, c'est juste d'avoir de nouvelles opportunités que toute seule, j'aurais sûrement pas pu avoir. Et pour moi, c'est tout bénef parce que justement, ça me fait découvrir d'autres choses.
Et donc, si on revient à Détroit maintenant, sur la vision que vous avez de ce pool de talents et de ce que vous souhaitez en faire et de la façon dont vous voulez le faire grandir. C'est quoi un petit peu la vision là, sur les 1, 2, 3 ans?
Nous, la vision, c'est de réunir la communauté la plus prometteuse, la plus influente dans le domaine de l'IA. Parce que pour les marques, en fait, c'est hyper excitant de pouvoir créer sans limite à des coûts de prod qui sont moindres qu'une vraie prod, dans des délais rapides, Donc en fait, c'est une super opportunité pour les marques et en même temps, c'est une super opportunité pour les talents. Donc si on arrive à faire la passerelle entre les deux, on va pouvoir raconter des belles histoires, on va pouvoir vendre sans vendre, mais en étant plus séducteur, en étant plus cool et en explorant. Les marques vont nous permettre d'explorer des nouveaux territoires parce qu'elles vont financer un petit peu ça, quoi. Elles vont financer une espèce de recherche visuelle, nouvelle. Et c'est cool pour les marques et c'est cool pour les artistes. Et ça fait découvrir des nouveaux territoires. Moi, comme je disais au début, j'aime les explorateurs, les chercheurs. Et ben là, on va permettre à nos talents d'explorer des nouveaux mondes.
Mais c'est marrant, tu parlais de coûts. Ça me fait rebondir sur... Un sujet, donc des camarades qui ont fait une vidéo tout en AI pour Guerlain, et donc avec une agence.
Louis Bonichon.
Hein ?
Louis Bonichon de chez Monster.
Alors, non, oui, alors il y a Monster, mais c'est surtout ceux qui ont développé derrière, qui s'appelle Bonjour Lab.
Oui, Bonjour Lab.
Que je salue. Et on discutait justement rapidement au téléphone la dernière fois de ça. Et alors, du coup, effectivement, il y a eu une phase où l'annonceur, je sais pas si je peux en parler, mais en même temps, on s'en fout, allonge, tu vois, une petite somme pour aller faire de la R&D et savoir si on peut aller sur le territoire. Cool, on peut y aller. Donc, ils y vont. Mais finalement, le temps de faire la vidéo, etc., ça a été sur une période d'à peu près 6 mois. Ça a été très long.
Ils ont été ambitieux sur le projet. Leur vidéo, elle est géniale. Mais c'est vrai qu'il y a je ne sais pas combien d'images. Peut-être qu'ils auraient dû faire un peu plus court. C'est vrai que la techno...
Il a fallu reproduire la bouteille pour que ça soit la bouteille tu vois, originelle. Tu vois, et du coup, que tous les plans correspondent avec la bonne bouteille, etc. Donc, on parlait de coûts.
C'est réinterprété quand même, si je me souviens bien. C'est-à-dire, c'est inspiré de la bouteille. Il y a un traitement qui fait que ce n'est plus forcément ultra photoréaliste.
Oui, mais pour en arriver à ça...
Il faut nourrir. Bah, je pense que maintenant, il y a des... En fait, la techno, elle évolue très vite, donc il y a probablement des manières un peu
plus faciles. On va dire que là, il y a des tendances. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité dans une IA, il y a des petites tendances qui vont se créer. C'est des petites capsules un peu cool où chacun va explorer cette nouvelle fonctionnalité. Je trouve que cette vidéo, c'en était un peu le cas. C'était une petite opportunité. Ils l'ont bien fait, Bonjour Lab ou Monster. Et en plus, financé par Guerlain, ça fait un joli truc. Là, il y avait des trucs en damier, je suis pas un technicien, mais il y a des nouvelles fonctionnalités à chaque fois qui permettent des nouveaux trucs. Mais nous, nos talents, ils sont pas spécialement dans le test de la nouvelle fonctionnalité, ils sont plutôt dans une recherche, une écriture plus profonde et plus personnelle.
Mais on est plus sur finalement de la photo, de l'image, tu vois, voilà, photo, ou est-ce que dans les talents que vous avez, il y en a qui vont aller aussi creuser la vidéo, l'animation, des choses comme ça?
Alors nous, dans nos talents, ce qui les réunit tous, c'est qu'ils ont un traité photographique, même s'ils peuvent shooter des choses surréalistes, c'est comme s'ils avaient un appareil photo dans la main. Ça, c'est le bien commun. On ne représente pas d'illustrateur ou de peintre ou autre.
Okay.
Peut-être un jour, mais pas actuellement. Et après, ta deuxième question, c'était, rappelle-moi.
Sur la vidéo.
Sur la vidéo. Certains talents maîtrisent pour faire des petites vidéos, des animations, des petits cinématiques, des choses comme ça, des loops. Et après, on a des techniciens plus geeks, qui sont moins artistes, qui maîtrisent ça aussi, avec qui on peut monter des petites teams spéciales.
Ok. Clément, tu voulais...
Non, c'est ça.
Rebondir ?
Non, la vidéo, c'est encore plus expérimental aujourd'hui. C'est intéressant de mettre le nez dedans, mais je pense que ça va évoluer vite aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, je trouve que personnellement, en tout cas, d'un point de vue personnel, les rendus, ils sont moins intéressants que ce qu'on peut faire en photo. Donc voilà.
Mais... Oui. Non, mais et puis c'est un mix. Je suis tombé sur le post du directeur général de Brainsonic qui racontait un petit peu les behind the scenes finalement d'une vidéo qu'ils avaient produite pour Lenovo. Et il le dit, hein, voici la stack. Il dit en AI, on a Photoshop Generative Fill, Runway Gen 1, Gen 2, Midjourney Kyber. Et puis aussi, on a non-AI. Cinema 4D, Redshift, After Effects, Premiere Pro, Procreate, tu vois. Donc, effectivement, j'imagine que c'est un peu ça qui va se faire et qui se fait en tout cas actuellement, quoi.
C'est ce qu'on est en train de mettre en place, effectivement, pour pouvoir showcaser du produit dans nos images, sur notre offre, par exemple, sur mesure. Pour le moment, c'est un peu compliqué d'entraîner une AI à recréer un produit particulier. En fait, peut-être que sur Guerlain, c'est probablement comme ça qu'ils ont fait, mais c'était un gros sujet. Ils ont pu faire de la R&D, et puis surtout à la fin, ils ont rendu je sais pas combien d'images du produit. Donc ça a du sens d'utiliser ce type de techno. Nous, quand on doit générer même ne serait-ce que 10 images, ça fait trop de R&D que d'essayer d'entraîner une IA sur un produit ou sur un objet en particulier. Donc pour l'instant, effectivement, les solutions les plus simples, c'est de mixer les médias et d'utiliser du shoot en parallèle ou de la 3D et de faire une composition quoi, en utilisant l'IA en background, matière principale. Mais,
là, sur Tétinger, on fait de l'incrustation produit en 3D. Sur une autre marque de bijoux, là, je ne peux pas citer le nom, mais une grande marque, les produits ont été shootés en amont. Nous, on va faire des petits shoots additionnels pour que les cadrages, les lumières, etc., coïncide bien, mais on va dire qu'il y a une étape de post-prod traditionnelle de retoucheur. Quoi, ou
Mais là, quand tu dis nous, c'est Gilbert Wilson.
Non.
Ou c'est
Détroit. Détroit, au final. Donc,
c'est pas que de l'agent.
Agent producteur. Quoi.
Ah ouais, ok. Vous remontez aussi
pour
sur
la marque, on doit leur fournir un produit final. Donc, ouais. Ils vont nous demander quelque chose. Le talent travaille et on aide le talent à aller jusqu'au bout de la demande. Quoi.
Non, mais c'est vrai que Détroit, c'est assez jeune. Notre vision première, c'était effectivement de représenter des talents. C'est la porte d'entrée, c'est la raison d'être de base de Détroit. On s'est évidemment aperçu qu'il y a des clients qui venaient nous voir aussi pour créer des images selon une demande spécifique. Donc l'idée, c'est d'être agile et de
pouvoir aussi... ils ont l'expertise. Donc plutôt que d'aller chercher plusieurs entités, autant se concentrer là-dessus quoi. Donc ça, c'est encore des opportunités.
Et l'avantage finalement dans un sens, c'est que vu qu'on est deux créatifs directeurs artistiques, on peut mettre en place justement des teams comme ça où on va pouvoir leader un projet et avoir une vision globale et être garant d'un résultat et garant aussi d'une réponse appropriée à un brief particulier quoi. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a d'avoir ce background là.
Ok, Flo, toi dans ton travail au quotidien, l'IA pareil, c'est devenu un réflexe, pas forcément mid-journée, mais un chat GPT, des choses comme ça pour...
C'est devenu un réflexe parce que c'est un outil à dispo qui nous facilite la vie en fait, comme Photoshop. Maintenant je me pose plus la question, je l'utilise. S'il y a un intérêt à l'utiliser, je l'utilise. Je ne l'utilise pas pour l'utiliser, pour montrer qu'on fait de l'IA, mais ça fait partie, c'est un outil à part entière.
Oui, tu l'as intégré.
C'est intégré et je pense que c'est ce qui va arriver de plus en plus, tout créatif.
D'accord, très très bien. Donc on vient de parler de Détroit, de votre vision. On a parlé de plein d'autres sujets entre-temps, hein, mais j'aimerais quand même avoir la réponse sur ça. Détroit dans 4-5 ans, qu'est-ce que ça peut être ? Allez, rêvons.
Détroit, dans 4-5 ans, collabore avec beaucoup de marques de luxe qui vont avoir un besoin de créer du contenu comme aujourd'hui, mais qui sera certainement un peu plus gros dans 4 ou 5 ans, sur des demandes très spécifiques, très personnalisées. Je pense que les expériences clients sont de plus en plus personnalisées. Autant on pourra avoir une campagne demain qui sera déclinée 100 fois en fonction des cibles ou des cibles spécifiques quoi. Donc un client de Vuitton, il pourra avoir la même pub produit mais très différente s'il a 90 ans ou s'il a 20 ans, s'il soit asiatique ou s'il est du Moyen-Orient ou s'il est français.
Ça marche. Alors si vous entendez du bruit, hein, c'est juste qu'on est dans le studio et donc du coup forcément il y a du passage, il y a des gens qui vivent. Et voilà, mais c'est tout à fait normal et ça donne un peu de chaleur à tout ça. Clément, toi, un dernier mot peut-être sur Détroit justement, si tu avais un message à faire passer sur Détroit et sur les talents aussi.
Un dernier mot. Je trouve ça compliqué, moi, justement, de se projeter sur 4-5 ans, parce qu'en fait, déjà, sur les 3 prochains mois, c'est difficile de se projeter, parce que on est quand même vachement dépendant de l'AI et des avancées technologiques. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, encore une fois, on a basé Détroit sur des talents d'artistes. Donc, encore une fois, peu importe comment va évoluer la techno, on est structuré sur des talents d'artistes, peu importe si c'est de l'AI, comment va évoluer l'AI. Voilà, c'est ça qui compte, c'est comment l'AI va continuer à mettre en valeur une écriture particulière, celle de Flo, celle des autres. Donc, il y a plein d'inconnus sur le futur, et en même temps, on a une structure solide et un point de vue solide sur les évolutions, et du coup, on est préparé au futur, quoi. Même si on ne sait pas de quoi il va.
On est le premier agent mondial.
Ça, c'est beau, hein. Ça c'est beau.
Voilà. Qui représente des talents d'IA. Donc, ça, c'est quand même cool. Et je pense que, après, on sera légitime, on évoluera en même temps que la techno.
Ouais. Voilà. Ça, c'est le mot d'ordre de Jonathan. Évoluer en même temps que la techno. Mais c'est vrai. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, de toute façon. Donc là, on arrive vers la fin de l'épisode. On va revenir sur des choses plus personnelles en ce qui vous concerne, chacun de vous trois. J'ai une petite rubrique toujours vers la fin. Alors, peut-être parler quand même de votre recette, ce que j'appelle la recette, c'est-à-dire c'est quoi le bon ingrédient qui booste votre créativité, tu vois, ce qui vous met sur les rails en fait de la création, et aussi le mauvais ingrédient, celui qui peut tout gâcher. Flo, on va commencer par toi.
Ah ouais.
Ou tu veux réfléchir un peu et on commence par Clément. J'avais l'impression qu'il était super chaud sur le sujet.
Est-ce que t'es inspiré?
Allez, Jonathan, alors. Jonathan, je sens qu'il est chaud.
Ouais, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est... en fait, je me vois comme un entrepreneur créatif. C'est qu'avant, j'étais quand même créatif, comme un graphiste qui faisait du branding ou autre. Maintenant, j'entreprends beaucoup et ma créativité... s'exerce dans l'entrepreneuriat. J'avais pas cette vision-là avant. Pour moi, un créatif avait un pinceau. En fait, la créativité peut s'exprimer partout. Et du coup, mes idées d'entrepreneur, on va dire, elles viennent dans des moments où je suis pas dans l'opérationnel, quand je suis pas dans le jus. Donc, la douche me suffit pas le matin, mais par contre, je fais quand même pas mal de sport, pas mal de méditation. Je suis très intéressé par le chamanisme et la spiritualité, qui pour moi est profondément ancré en moi, et ça me permet des soupapes et des moments où j'ai des prises de recul générales sur un marché, sur ce que je fais, etc., et qui m'amène derrière, j'ai des petites visions, des solutions, et après je les mets en scène ou pas, mais c'est de là que viennent mes idées, quoi.
Là, tu me hook de ouf avec le chamanisme et tout. Ça, c'est des choses que je connais pas bien. Pareil, je me dis, ça peut être carrément un autre épisode, quoi. Hein. On a envie de creuser un peu la question. Mais si en une minute, tu pouvais nous en dire un peu plus, tu vois, sur cette pratique-là.
Pratique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours aimé la spiritualité, l'ésotérisme. Donc, j'ai lu beaucoup d'auteurs étant jeune, en prenant certains produits illicites aussi, qui accompagnaient. En fait, je me camais plus pour avoir comme un travail personnel, pour atteindre un niveau de conscience, de prise de recul sur certaines choses qui m'ont fait évoluer. C'est comme ça que ça m'a fait grandir. Et après, je me suis intéressé au chamanisme, etc., qui travaillent avec des plantes ou pas, mais en tout cas, qui permettent des prises de hauteur sur notre quotidien, mais aussi sur d'autres mondes, comme le monde du rêve. Plein d'autres possibilités, mais c'est un grand, grand sujet.
Ah oui, ça a l'air. Hein.
Je vous conseille de lire Castaneda. C'est un Américain un peu bête qui se fait initier par un chaman mexicain pendant 40 ans, c'est extraordinaire, c'est très complet.
Ok.
Il écrit mal, mais c'est passionnant. Voilà.
Très bien.
Je vais en dire plus.
Ça donne envie, en tout cas, d'aller voir ça de plus près. Et du coup, le mauvais ingrédient, donc celui qui met un stop.
C'est pour moi, c'est trop d'opérationnel, trop tâches à effectuer, et qui fait élever ma zone de stress, qui me fait mal dormir la nuit. Qui me fait être grognon avec ma famille. Donc ça, c'est ma limite. Avec l'âge, j'arrive à l'anticiper, tout ça, et de pas l'atteindre. Mais ça, voilà, ça c'est très nocif, quoi.
Ouais. Donc on espère que l'IA aidera à faire moins d'opérationnel aussi, au final. Flo, est-ce que tu as eu le temps de trouver?
J'ai une réponse un peu cliché, mais pour moi c'est vivre, hein, mais vivre la vraie vie ou vivre dans sa tête aussi. C'est de toujours développer son imaginaire, et c'est ça qui inspire, je trouve.
Ça marche. Et le mauvais, du coup ?
Je dirais le temps, le manque de temps. Des fois, on a envie de tout faire, mais le temps ne suit pas. J'aimerais faire partie de ces gens qui ont besoin de dormir seulement 2 heures par nuit. Je me dis tout ce temps qu'on pourrait récupérer pour faire tellement de choses, mais malheureusement, le corps humain ne suit pas. Il faut dormir un peu plus, mais ce serait peut-être le défaut. Ça et le stress, effectivement, essayer d'apprendre à dire non et prioriser ses choix.
Ouais, ça marche.
Et
Clément.
Oui, vaste sujet. J'essaie de réfléchir à trouver une réponse là en écoutant mes camarades. Je me retrouve dans pas mal de choses qu'ils disent. Au final, j'ai l'impression que la créativité peut aussi arriver de la contrainte. Alors ça peut être le temps, ça peut être aussi justement le manque de moyens. En fait, il peut y avoir plein de contraintes. Et c'est comme ça qu'on est vraiment créatif. En tout cas, c'est comme ça.
Mais voilà, toi, c'est là où tu te
trouves. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me considère pas du tout comme un artiste, et comme un créatif, du coup. Donc, souvent, qui répond à des contraintes, qui répond à des demandes clients, parce qu'en tant que directeur artistique, c'est ça, hein. C'est pas de l'art, c'est pas une recherche personnelle. Du coup, c'est vrai que la contrainte pose un cadre et nous oblige à trouver des solutions, donc à être créatif, et que peu importe la solution. C'est pour ça que ça rejoint ce que dit Joe aussi, c'est que quand on est créatif, c'est pas nécessairement que dans de la création graphique ou visuelle, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Et trouver la bonne idée d'une entreprise au bon moment, bah c'est de la création, puisque ça fait partie d'une réponse à une contrainte, à une demande, à un insight particulier.
Ok, très bien. Et le mauvais ingrédient, du coup ?
Un peu comme Joe, je dirais, c'est pareil, c'est l'opérationnel.
Plus on vieillit, plus l'opérationnel, ça fait chier.
Quand j'ai une liste de tâches, c'est-à-dire quand j'ai mes notes avec tout ce que je dois faire, je peux pas me filer à la partie créative si j'ai pas fait tout ce qu'il y avait à faire avant, parce que sinon ça me pollue, en fait.
Ouais.
Donc il faut dépolluer toute ma liste des tâches avant de commencer à avoir une réflexion créative. Ouais.
Très bien. Moi, je vous suis là-dessus. Franchement, incroyablement. Le petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement là dans l'année 2024? Tu vois?
Faire une expo au MoMA à New York.
Ah ouais.
Tous nos artistes.
Pas mal.
Je suis pour.
Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est un.
Ça pourrait être pas mal, ça, quand même.
Ouais. Oh, même à côté, là, à Pompidou.
Ouais, mais à New York, ça claque.
Ouais, ça claque. Ça claque. On finit sur ça, alors ça pourrait être ça le mot de la fin.
Ça serait pas mal.
Allez, ça marche. Bon, ben, merci à tous les trois.
Merci. Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de 3 semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast, et Ludovic Prigent pour la DA. Allez, salut tout le monde, et à très bientôt sur From Scratch.